bienvenue sur DGT Radio, la radio de partage des connaissances de la DGT. Alors, je me trouve aujourd'hui dans les locaux de la DG Communication, rue de la Loi, à Bruxelles, en compagnie de Gaëtan Ricard-Nioul, qui va nous parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe, des panels citoyens et du rôle du multilinguisme et de la traduction dans ce processus. Donc Gaëtan, merci de me recevoir.
Mais avec plaisir, bonjour.
Alors vous êtes chef adjointe de l'unité chargée des dialogues citoyens à la DG Communication. Et vous avez été membre du secrétariat pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, où vous étiez chargée en particulier des panels citoyens européens. Donc vous êtes vraiment au cœur de ce processus participatif. Et bon, moi, en tant que traductrice web à la DGT, j'ai traduit une série de pages web pour la conférence. Et je sais que des centaines de milliers de personnes dans toute l'UE ont participé à cette conférence pendant un an, du printemps 2021 au printemps 2022, et que ces personnes ont bien sûr échangé dans plusieurs langues, d'où l'importance de la traduction. Peut-être, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était l'ambition de cette conférence ?
Oui, ben déjà, vous dire que je suis en effet ravie de faire cette interview avec vous parce que je pense que la question des langues et du multilinguisme était complètement, on va dire, enchevêtrée de manière très étroite avec ce qu'était la conférence. Parce que au départ, cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'était l'idée de lancer un grand exercice de démocratie participative et délibérative à l'échelle paneuropéenne. Pour dire, voilà, pendant un an, on va faire un processus qui va mettre les citoyens au centre de la réflexion sur l'avenir de l'Europe. Et donc, on a instauré tout un dispositif participatif et délibératif avec différents piliers, on y reviendra probablement. Mais peut-être revenir sur l'impulsion politique, rappeler que, donc en fait, c'est une proposition au départ qui vient d'un État membre, que la présidente de la Commission a repris dans ses orientations politiques au début de son mandat, sous le chapeau de la priorité New Push for Democracy. Et ensuite, c'est devenu donc un projet interinstitutionnel. Et c'est là que la conférence était particulièrement intéressante. C'est que pour la première fois, non seulement on a fait cet exercice participatif à une échelle jamais faite auparavant, puisqu'on était sur une dimension européenne transnationale, mais en plus on l'a fait à trois institutions, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement et le Conseil des ministres. Et donc le but était de collecter des propositions sur l'avenir de l'Europe.
Alors vous parlez de ce processus inédit de démocratie participative qui reposait sur plusieurs piliers. Il me semble qu'il y en avait trois. Hein. L'un était la plateforme numérique, multilingue évidemment, les panels citoyens et l'assemblée plénière. Alors d'abord, la plateforme numérique, à quoi est-ce qu'elle servait ? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme pendant un an ?
Alors déjà, dans ces trois piliers que vous venez d'évoquer, il faut souligner le fait qu'il y avait des innovations démocratiques dans les trois et que c'était assez audacieux, voilà, ambitieux comme dispositif participatif, on va dire. Et la plateforme faisait partie de ces innovations également, puisqu'on a intégré dans le système Europa un software,
un logiciel.
Un logiciel, voilà, open source, qui s'appelle Decidim, qu'on appelle de la civic tech aujourd'hui, c'est-à-dire qui a permis un exercice proprement délibératif en ligne. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a, c'est un système où les citoyens pouvaient déposer des idées et commenter les idées des autres, et donc ça a créé un espace de débat entre les citoyens et pas seulement entre les citoyens et les institutions. Et on a intégré à ce logiciel qui, au départ, vient de la municipalité de Barcelone, donc qui est plutôt un logiciel unilingue, on lui a intégré la dimension multilingue, en utilisant notamment le e-translation system que la Commission a développé et qui a très bien fonctionné. Et donc, ça a permis, effectivement, à un Slovaque de déposer une idée, à un Allemand de la commenter, à un Italien de commenter le commentaire, et puis un Bulgare. Et de cette manière-là, avec la traduction automatique instantanée, ils ont pu dialoguer entre eux.
Alors, j'ai trouvé des chiffres sur Internet qui disent que près de 100 millions de visiteurs sont venus sur le site, sur cette plateforme. Plus de 50 000 participants étaient actifs, 17 000 idées débattues, 40 000 contributions, plus de 6 000 événements auxquels ont participé plus de 600 000 personnes. Et alors, la question que je me suis posée, c'est mais comment est-ce que vous avez pu gérer un tel afflux de données, d'informations, de propositions, pour qu'au final, il en émerge 49?
Oui, alors ça signifiait qu'il fallait intégrer à ce dispositif participatif en ligne une capacité d'analyse. Mmh. Et c'est là aussi que ça a permis d'innover au sein de la commission, c'est-à-dire qu'on a mis en place des outils qui permettent d'analyser des données très larges, un nombre très vaste de données de ce type, et d'une manière évidemment qui se devait d'être totalement intègre et respectueuse des contributions, puisque on veut les contributions citoyennes brutes, bien sûr, on ne veut pas les retravailler. Donc on a mixé un système d'intelligence artificielle, donc des systèmes de dashboard, etc., un outil utilisé déjà par le GRC, nos collègues du GRC qui l'utilisent notamment pour le média monitoring déjà dans la commission. Et on avait un prestataire qui analysait ces données sur base de ses premières analyses, un peu systématique, mais c'est jamais systématique, parce que vous savez que l'intelligence artificielle, elle est toujours aussi supervisée et orientée par la contribution humaine, on va dire. Et donc, sur base de ces données, on a publié des rapports réguliers sur la plateforme. Ça, c'est pour la partie, on va dire, plateforme. Après, bien évidemment, les propositions elles-mêmes, elles ont été aussi inspirées par les panels et le travail de la plénière.
Bah peut-être venons-en aux panels. Alors, les panels citoyens, donc 800 citoyens y ont participé. Ils étaient regroupés en 4 panels. D'abord, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés, les participants à ces panels?
Alors, c'est ça l'innovation aussi qu'amènent ces panels citoyens européens. Ce sont, si vous voulez, des assemblées citoyennes. On voit, c'est un mouvement qui a tendance à se développer à peu près à tous les niveaux. Les assemblées citoyennes sont organisées à l'échelle locale depuis très longtemps, de plus en plus à l'échelle nationale. Mais au niveau pan-européen, c'est la première fois, ou en tout cas à cette échelle, qu'on le faisait. C'est fondé sur le tirage au sort. Et c'est ça qui fait la force de ces panels. Alors, c'est un tirage au sort. Et puis après, sur base de ce tirage au sort, on constitue des panels représentatifs de la diversité de l'Union européenne. Diversité géographique, donc origine nationale, l'État membre, mais aussi urbain ou rural. Et puis aussi la diversité socio-démographique, donc l'âge, le genre et le niveau d'éducation et le background socio-économique. Voilà, catégorie socio-professionnelle. Et donc, c'est la force majeure de ces panels parce qu'on amène à la réflexion sur l'avenir de l'Europe des gens qui, au départ, n'auraient pas spontanément été, par exemple, c'est la différence par rapport à la plateforme où là, ce sont plutôt des gens qui ont eu envie d'y aller, même si on a essayé que ce soit le plus inclusif possible et d'aller chercher des gens plus éloignés. Mais avec le tirage au sort, on arrive à faire venir à la table, on va dire, de la discussion européenne, des gens qui ne sont pas familiers du tout avec l'élection européenne, voire même avec le débat public en général, qui sont assez éloignés des institutions. Donc ça, c'est une force, parce que c'est toujours le problème qu'on a avec, on va dire, les affaires publiques en général, mais européennes peut-être en particulier. Il y a cette distance quand même entre le citoyen et les institutions, et ça permet de la diminuer, on va dire. Et non seulement, donc, c'est ce tirage au sort, donc des profils de personnes qui sont moins familiers des questions européennes, mais en plus, cette diversité socio-économique, géographique amène une richesse des débats qui est assez exceptionnelle. Et on le sait depuis des décennies maintenant que ce type d'assemblée citoyenne tirée au sort existe. On sait que la diversité socio-économique et géographique amène beaucoup de richesse au débat. Mais on a ajouté, nous, la diversité linguistique et des nationalités. Et beaucoup, quand on a démarré, nous ont dit « mais vous n'y arriverez jamais, on ne peut pas faire des débats comme ça, des délibérations dans 24 langues ». Et on avait déjà eu l'expérience précédente au lancement des consultations citoyennes sur l'Europe d'un panel pan-européen qui avait fonctionné. Donc on a dit « non, on sait que ça peut marcher ». Mais on ne savait pas à cette échelle si ça pouvait être possible. Et ça l'a été. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a amené nous, Union européenne, on va dire, au monde de la démocratie participative, on a prouvé que la délibération multilingue était possible, avec coup de chapeau énorme, évidemment, aux interprètes qui ont été, on va dire, partie prenante, en fait, de l'exercice participatif. Et je dois le dire aussi, la DGT, parce qu'elle nous a permis de traduire tous les documents. Parce que, bien évidemment, vous imaginez qu'on ne peut pas demander à ces citoyens tirés au sort de parler anglais. Ce serait un facteur d'exclusion inacceptable. Donc, on les rassure, on dit qu'ils sont légitimes, qu'ils n'ont pas besoin de parler anglais. Mais ça veut dire que tout doit être constamment multilingue.
On reviendra à la traduction, mais je voulais parler aussi de la dernière étape de la conférence qui était l'assemblée plénière. Donc une fois que tous ces panels ont délibéré, un certain nombre de participants à ces panels se sont réunis en assemblée plénière. Voilà, comment ça s'est passé cette assemblée plénière ?
Alors, c'est là aussi, donc, comme je le disais précédemment, on a parlé des trois piliers et j'ai dit qu'il y avait de l'innovation démocratique dans les trois piliers. Donc, on en vient à celui qui est peut-être encore le plus innovant de tous parce que je ne connais pas d'autres expériences de ce type à l'échelle nationale ou internationale. On a créé une assemblée plénière qui regroupait des représentants élus, donc des députés nationaux, européens, des représentants des gouvernements, etc., avec la société civile organisée, donc que ce soit du comité économique et social, mais aussi d'ONG, voilà, de regroupements d'ONG, etc., les partenaires sociaux, le comité des régions, les autorités locales, et c'est là qu'on arrive à encore l'innovation majeure, des citoyens tirés au sort, qui étaient issus des panels pan-européens, ils ont été en réalité de nouveau tirés au sort. Donc, c'est-à-dire ce sont des citoyens qui se sont portés volontaires pour être ambassadeurs dans la plénière. Et comme on en avait beaucoup, on en avait à peu près la moitié qui se sont portés volontaires, donc c'est quand même assez impressionnant, on a tiré au sort. Et donc, à la fin, ils ont été 20 par panel, donc 80. Être présents aussi dans les plénières. Il faut imaginer qu'ils se sont mobilisés pour 3 week-ends déjà pour les panels, ce qui est quand même pas rien. Ce sont des gens qui ont une vie de famille, une vie professionnelle, et ils prennent sur ce temps-là. Et ils ont refait, de nouveau, les plénières, je crois que c'était 5 week-ends supplémentaires. Mmh. Donc voilà, donc c'était un investissement assez conséquent. Et ils ont formé ce qu'on a appelé la composante citoyenne de la plénière, pas tout seul, parce qu'il y avait aussi 27 représentants des panels citoyens nationaux ou des événements nationaux, parce que les États membres n'ont pas tous fait un panel citoyen, comme à l'échelle européenne. Donc, ils avaient le choix de choisir cette méthode ou de faire d'autres méthodes. Mais ils avaient chacun un représentant. Et il y avait une 108e personne dans cette composante qui était la présidente du Forum européen de la jeunesse.
Alors, on a déjà évoqué plusieurs fois la traduction qui, en fait, a rendu possible le dialogue et la rencontre de ces citoyens. Donc, traduction automatique, traduction humaine. J'ai su que sur la plateforme, il y a eu près de 4 millions de demandes de traduction automatique. Quels ont été les retours des utilisateurs sur la traduction automatique ? Est-ce qu'ils étaient globalement satisfaits ? Parce qu'on sait bien que c'est un outil, en l'occurrence, tout à fait indispensable, mais qui commet des erreurs, qui est imparfait.
D'abord, il faut dire, moi, j'étais assez impressionnée par la qualité de ce système. J'étais un peu sceptique au début. J'avais peur que ça crée évidemment beaucoup de réactions négatives et que ça empêche le dialogue entre les citoyens d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, ça a fonctionné très bien. Et du coup, je me suis aussi renseignée sur la modération parce que nous avions des gens, évidemment, qui toute la journée modéraient cette plateforme, répondaient aux citoyens qui posaient des questions, modéraient éventuellement des propos inappropriés, on va dire, par rapport aux règles de droit. Jamais, évidemment, tous les contenus étaient acceptés. Hein. Ce n'est pas une question de contenu. C'était plutôt, évidemment, des discours qui incitent à la haine ou des choses de ce type. Mais sur la question de la traduction automatique, on a eu peu, en réalité, de plaintes. Voilà. Il y en a eu quelques-unes qui soulignaient que telle ou telle traduction n'était pas correcte, mais aussi des choses assez bienveillantes et encourageantes en disant « Ah bon, bah, ça fait quand même du progrès ». Voilà. Donc, au final, une expérience positive.
Et pour ce qui est de la traduction humaine, donc, la DGT a traduit plus de 600 pages pour la conférence, donc de la communication web, ça j'y ai participé. Quel autre type de contenu est-ce que nous avons été amenés à traduire ?
Alors, c'est ce que je disais précédemment sur les panels citoyens, par exemple, comme on ne peut absolument pas exiger des personnes de parler anglais et même d'autres langues que leur langue maternelle, c'est essentiel que tous les documents qui arrivaient aux citoyens soient traduits, donc aussi bien en amont que les rapports sur les différentes sessions, les recommandations finales. Tout ça a été des documents qui ont dû être traduits, et bien évidemment aussi tout ce qui était autour de la plénière, notamment parce que de nombreux citoyens ambassadeurs des panels participaient à cette plénière. Donc de la même façon, ils avaient besoin de la traduction. Donc c'est vraiment, comme je le disais précédemment, tout ce qui était traduction et interprétation, c'était partie prenante, on va dire, de l'exercice participatif. Et j'espère vraiment que ça va le rester. Voilà. Je m'inquiète un peu que ça ne soit pas vu assez comme une priorité. En réalité, c'est de maintenir une possibilité et une exigence de multilinguisme très élevée au sein des institutions européennes. Parce que, selon moi, c'est vraiment une exigence démocratique, en fait. Ce n'est pas juste pour la beauté de la langue, c'est fait partie inhérente de ce qu'est la démocratie européenne, unie dans la diversité. Et cette diversité, elle est d'abord linguistique, parce que c'est ce qui permet de se comprendre. Mmh. Et se comprendre, c'est le fondement de la démocratie.
Alors, tout ce processus de démocratie participative a abouti à 49 propositions, je le disais tout à l'heure, 325 mesures. Alors évidemment, on ne va pas les détailler, mais on peut peut-être s'arrêter sur les mesures qui concernent les langues, le multilinguisme. Est-ce qu'il y en a eu ?
Il y en a eu. Il faut peut-être, avant de venir sur les propositions elles-mêmes, rappeler peut-être comment on a abouti à ça, parce qu'on a expliqué effectivement les trois piliers qui étaient la plateforme, les panels et la plénière. Mais donc, la plénière était le lieu où on a fait la synthèse de tout ça. Et donc, c'est un exercice extrêmement fascinant à suivre. Et il faut savoir qu'on a beaucoup défini les règles en marchant, puisque tout cela était assez innovant, et notamment pour la plénière. Il fallait mettre ensemble des représentants politiques avec des citoyens pour qui tout cela était totalement nouveau. On les a beaucoup accompagnés, évidemment, puisque les députés ont leur assistant. On avait une équipe qui assistait les citoyens. Mais donc, ils se sont réunis en plénière en groupe de travail, et ils ont transformé les recommandations des panels, avec aussi les idées qui venaient de la plateforme, en propositions. Et donc, c'est ce que vous avez aujourd'hui, le rapport de la conférence, et cette synthèse qui a été faite dans la plénière. Donc, si vous voulez, c'est cette rencontre entre la démocratie participative et délibérative, les assemblées citoyennes, la plateforme délibérative, etc., avec la démocratie représentative. Et il y a un dialogue qui s'est instauré entre eux. Et ça, c'est très intéressant, parce que très souvent, le maillon faible des processus participatifs, c'est le moment où les recommandations qui sont faites rencontrent la sphère de la représentation. Comment on fait pour l'intégrer dans nos législations ? Et le fait qu'on ait cette étape intermédiaire, en réalité, qui était ce dialogue entre les deux sphères, participative et représentative, a beaucoup aidé, je pense, et va aider à ce que les recommandations, les propositions qui sont sorties de la conférence aient un effet, un impact. Voilà. Mmh. Même si elles sont très vastes et que ça ne se fera pas d'un jour à l'autre et que ça prendra probablement des années. Mais oui, donc ma réponse sur le multilinguisme, oui, tout à fait. Il y en a eu. Il y a une proposition en particulier qui concerne la culture et les échanges, etc., et qui demande de la promotion du multilinguisme. Et donc, c'est la proposition 48, vous pouvez aller la voir. Et c'est pas seulement général, hein. C'est que l'Union devrait mettre en place une institution qui promeut la diversité des langues, le fait d'enseigner à l'école, d'apprendre la langue de son voisin. Et il y avait beaucoup aussi... Ça, c'était assez intéressant. Les citoyens sont assez, on va dire, décomplexés sur l'anglais. Ils considèrent, voilà, que c'est devenu une langue de communication et qu'elle doit être connue. Voilà. Et ça n'empêche pas, selon eux, de préserver le multilinguisme et d'avoir cet effet vertueux que, voilà, on connaît l'anglais, on peut connaître aussi d'autres langues. Mais donc, c'était assez intéressant à observer. Sur la plateforme, il y a eu, surtout sur la fin, une sorte de dynamique pro-espéranto.
Ah oui.
Oui, on pensait que ça avait un peu disparu, mais ouais. On a eu ça sur la plateforme, mais pas dans les panels. Les panels, c'était très pragmatique. Voilà, ils se sont bien rendus compte que l'anglais était était la langue de la communication entre tout le monde, donc il fallait vraiment le maîtriser, mais que c'était finalement le premier pas vers le multilinguisme, que ça ne devait pas remplacer, bien sûr, la diversité des langues. Je pense que je fais un résumé honnête de cette façon.
En fait, je me rappelle maintenant que j'ai lu qu'une des mesures était d'imposer l'enseignement d'une deuxième langue dès l'école primaire. Hein. Il me semble que ça fait partie des mesures. Ce que je trouve très très juste. Moi, j'aurais même dit l'école maternelle, mais bon.
Effectivement, là, on parle de elementary school, donc c'est plutôt l'école primaire, mais toujours les panels citoyens que j'ai observés, puisque je fais ça depuis longtemps à différents niveaux, local, national et maintenant européen, l'éducation est toujours quelque chose qui revient. Toujours. Et donc, à l'échelle de l'Union européenne, c'est plus délicat parce que l'Union européenne a moins de compétences. Mais c'est quand même un signal qu'ils ont envoyé de manière générale, de dire « c'est très bien de faire des recommandations aujourd'hui pour l'avenir, mais si vous voulez créer vraiment une Union européenne, ça doit se passer dès le plus jeune âge, à l'école. » Ils ont parlé aussi, outre les langues, d'une expérience civique qui démarre à l'école et qui continue toute sa vie, une expérience civique européenne. Donc que ce soit de l'enseignement sur la citoyenneté, mais aussi plus tard avoir différentes occasions à différents moments de sa vie, aussi de l'échange européen, que ce soit linguistique ou type Erasmus. Mais ils ont vraiment essayé de voir ça à l'échelle d'une vie et pas seulement du point de vue, on va dire, éducation formelle aussi seulement.
Alors, les panels citoyens se poursuivent. Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union, déclare que les panels de citoyens vont maintenant devenir une composante permanente de notre vie démocratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces panels, d'autant plus que je crois comprendre que c'est vous qui les organisez?
Oui, oui, tout à fait. Et donc, on était évidemment ravis de voir que la présidente de la Commission, retenait de cette expérience de la conférence, en particulier les panels citoyens. Parce que, non pas que le reste ait été moins intéressant, mais voilà, elle a reconnu que finalement, c'était une vraie valeur ajoutée par rapport à nos exercices, enfin à la démocratie représentative plus classique, d'avoir, en fait, d'associer les citoyens d'une manière, comme je l'expliquais précédemment, qui permet d'assurer la diversité et l'inclusion de ces groupes de citoyens. Donc d'associer les citoyens à la décision publique, à la préparation des politiques. Et donc elle en a effectivement annoncé dans le discours sur l'état de l'Union qui suivait la fin de la conférence de quelques mois, que les panels citoyens deviendraient une caractéristique de notre vie démocratique, on va dire. Et ce qu'elle a proposé, c'est que chaque année, sur 2-3 initiatives clés de la Commission, donc en amont de la proposition que la Commission va mettre sur la table, qu'elle soit législative ou non législative, on réunit un panel citoyen qui va soutenir, aider la Commission à préparer cette proposition. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, très, très vite, le premier panel a eu lieu mi-décembre, on a identifié 3 propositions qui bénéficieraient particulièrement de cet apport de panel citoyen. Donc, la première sur le gaspillage alimentaire, la deuxième sur les mondes virtuels et la troisième sur la mobilité à des fins d'apprentissage. Et donc, on a le dernier panel là, qui va avoir lieu ce week-end. Mais donc, ça a été 9 week-ends, de nouveau, 3 week-ends par panel, où ils ont progressé ensemble. D'abord, essayer d'identifier des pistes qui se développent petit à petit vers des recommandations. C'est un exercice très intéressant à observer. D'ailleurs, on invite les personnes de la commission qui le souhaitent à venir observer. C'est très, encadré, dans le sens où on est accompagné par des professionnels de la démocratie délibérative avec qui on imagine une méthodologie qui permet d'aller des premiers pas jusqu'aux recommandations, avec des facilitateurs et des modérateurs professionnels, ça c'est très important. Et donc on alterne un travail en plénière et en groupe de travail, toujours en multilinguisme, avec les interprètes, qui permet donc d'aboutir à des recommandations. Et donc la caractéristique de ces panels par rapport à la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est que là, bon, c'est la Commission seule qui les organise, c'est dans le cadre de ses compétences à elle qui est de faire la proposition, donc on inclut les citoyens en amont de cette proposition, et donc on va l'intégrer vraiment dans le système de la fabrication des politiques. Et donc il y aura un rapport citoyen rédigé après ces panels qui va en fait être envoyé au collège, on va dire, des commissaires avec la proposition. Ça va faire partie du paquet qui va aller au collège. Et bien sûr, la direction générale compétente s'inspire de ces recommandations pour préparer la proposition. Ça, c'est la partie panel. On garde d'autres choses de la conférence, je voulais le souligner aussi, parce que la conférence, en fait, a vraiment permis, on va dire, de donner une impulsion nouvelle à la façon dont on fait l'engagement citoyen dans la commission. Donc, on garde les panels, mais on va aussi, on les garde aussi, ça j'aurais dû le mentionner d'entrée de jeu, parce que c'est une des propositions de la conférence aussi. Ils ont demandé que ce type d'assemblée citoyenne soit maintenue et qu'on en fasse d'autres. Et une autre proposition de la conférence était de dire qu'il faudrait, l'engagement citoyen en ligne est trop disparate. Il y a plein de lieux où on peut faire des choses, mais ce n'est pas assez clair. Et donc, ils ont demandé qu'on ait une sorte de hub, d'un lieu en ligne sur l'engagement citoyen. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille aussi actuellement, où on essaye de mettre ensemble les consultations publiques, l'initiative citoyenne européenne, et un troisième espace nouveau qui sera inspiré de la conférence et qui sera cet espace délibératif multilingue. On est en train de créer aussi ce nouvel espace digital d'engagement citoyen. Et puis, une troisième chose que je voulais souligner, qui est un petit peu plus sous le radar, mais qui est aussi important, c'est qu'on a créé au sein de la commission maintenant un groupe interservice sur l'engagement citoyen, qui est vraiment le lieu où on peut échanger les bonnes pratiques. Et la première tâche à laquelle on s'est attelé, c'est d'écrire un guide de l'engagement citoyen pour la commission, où on va essayer de mieux catégoriser les différents formats possibles, y compris les panels, et l'impact que le fait d'utiliser tel processus participatif a sur la manière dont on prépare notre travail et les politiques européennes.
Vous disiez tout à l'heure que les panels citoyens sont accessibles, qu'on peut venir les observer. Dans quel cadre, où est-ce que ça se passe ?
Alors, pour le moment, les panels citoyens qu'on organise sont à Bruxelles. Et donc, on a trois week-ends. Le premier à Bruxelles, le deuxième en ligne et le troisième de nouveau à Bruxelles. Donc, ça se passe au Charlemagne, ça se passe au Centre Borchette. Donc, il suffit de nous contacter et on fera en sorte que vous puissiez observer. Les plénières sont de toute façon web-streamées et donc elles peuvent se regarder en ligne, mais on peut aussi venir les observer. Et les groupes de travail, là, il faut demander, mais il n'y a pas de problème pour observer aussi le travail en groupe de travail. Et c'est des observateurs qu'on autorise au sein de la commission, mais aussi des chercheurs, des think tanks ou des ONG. On essaye de trouver un équilibre, bien sûr, entre le fait qu'il faut que les citoyens se sentent à l'aise pour délibérer sans avoir 50 personnes qui les regardent. Mais en même temps, c'est pas une boîte noire, quoi. On veut que ce soit ouvert sur l'extérieur. Puis surtout, notre expérience, c'est que si certains sont sceptiques, c'est qu'en général, quand ils viennent voir, ils en ressortent assez convaincus. Parce qu'il y a une telle dynamique de groupe, il y a une telle bienveillance, on va dire, entre les citoyens, un dialogue pacifique, respectueux entre eux. Très souvent, ça redonne foi en la démocratie.
Peut-être pour conclure, est-ce que vous avez un message à transmettre à la DGT, aux traducteurs de la DGT ?
J'ai un message, comme je le disais précédemment, je veux d'abord les remercier parce que à la fois les interprètes et les traducteurs ont fait un travail incroyable autour de la conférence et continuent de le faire pour les panels citoyens et la démocratie participative à l'échelle européenne en général. Et je voudrais ressouligner à quel point ce travail est fondamental pour permettre cette démocratie participative. On ne peut pas dire qu'une démocratie est fondamentalement inclusive si on ne permet pas aux gens de parler leur langue maternelle, la langue dans laquelle ils sont à l'aise. Pareil pour évidemment tous les documents auxquels ils ont accès, qu'ils doivent lire, le fait que ce soit dans leur langue leur permet d'être vraiment tous sur un niveau d'égalité et donc d'entrer dans un dialogue constructif et respectueux. Donc voilà, en deux mots, c'est merci et travail absolument clé et fondamental, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur ces processus participatifs.
Merci à vous, Gaëtane Ricard-Nioul. Je rappelle que vous êtes chef adjointe de l'unité chargée des dialogues citoyens à la DG Communication. Donc merci de m'avoir reçue, et puis bonne chance avec les panels citoyens actuels et à venir.
Merci à vous, bonne journée.